Quand j'étais étudiant, un jour, j'ai eu une discussion sur la messe avec un collègue de promo. Et dans la discussion, donc, j'avais engagé la conversation. Donc, je savais que c'était un catholique pratiquant qui assistait tous les dimanches à la nouvelle messe. Alors, je lui ai dit, pour toi, c'est quoi la messe ? Ah, c'est quoi la messe ? Alors, il me dit, la messe, c'est un partage, on se retrouve ensemble près de l'autel avec le prêtre, on prie ensemble et on communie, voilà. Je pense que c'était en gros, c'était à peu près ça, quoi. Alors, je dis, ah, pour toi, c'est ça la messe ? Non, en fait, la messe, c'est pas ça. C'est pas, en tout cas, l'essentiel de la messe. La messe, c'est un sacrifice. Alors lui, il me répond, ah non, pour moi, c'est pas un sacrifice d'aller à la messe. C'est bien, il a tout compris. Très bien. Bon. Alors, c'est vrai que si, je vais pas vous poser cette colle, qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice, hein, mais je pense que c'est par là peut-être qu'il faut commencer pour essayer de mieux saisir ce que c'est que la messe. Parce que même aux alentours du concile, déjà, même avant le concile, on pouvait dire que dans l'orientation qui avait été donnée à la messe, on avait mis beaucoup l'accent sur la communion. Donc dans la messe, en fait, on se dit, je vais à la messe pour communier. Donc l'élément principal de la messe, disons, apparaissait comme étant la communion. Alors c'est vrai que subjectivement, pour les fidèles, le moment le plus important, c'est la communion, parce que c'est là qu'ils reçoivent notre Seigneur dans leur cœur, vous voyez. Mais le centre de la messe, c'est pas avant tout la communion. Le centre de la messe, normalement, c'est la consécration, parce que justement, la messe, c'est un sacrifice. Et on pouvait dire que, Monseigneur Lefebvre, certainement, qu'en raison de la crise de l'Église, ensuite, parce que de la messe, si vous voulez, communion, on est arrivé à la messe repas. Donc la messe est une le principal de la messe, c'est la communion. On se nourrit de Jésus et de la messe communion, on arrive à la messe repas. Et donc pour remettre les choses à leur place, c'est très important de rappeler que la communion est le fruit de la messe, mais la messe ce n'est pas la communion. La messe c'est avant tout le sacrifice du calvaire reproduit sur nos autels. Alors, je vais commencer, si vous voulez, par essayer de vous faire réfléchir un petit peu à ce que c'est que le sacrifice en général. Le sacrifice dans le sens, si vous voulez, des sacrifices qui ont toujours eu lieu depuis la chute d'Adam et Ève. Donc, l'homme a offert des sacrifices à Dieu. Donc, je vais essayer de vous faire réfléchir à cette notion de sacrifice pour mieux comprendre ce qu'a été le sacrifice du calvaire. Et pour mieux comprendre ensuite ce qu'est la messe, puisque la messe, c'est le sacrifice du calvaire qui est reproduit sur nos autels. Donc si on veut bien comprendre le sacrifice de la messe, il faut bien comprendre le sacrifice du calvaire. Mais pour bien comprendre le sacrifice du calvaire, il faut déjà bien comprendre ce que c'est qu'un sacrifice. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice ? Le sacrifice, en fait, a pour origine l'état de dépendance dans lequel l'homme, du fait de ses impuissances, a conscience de se trouver par rapport à Dieu. Donc l'homme, si vous voulez, même primitif, depuis le péché originel, lorsqu'il pense à Dieu, il a conscience, eh bien, qu'il n'est que peu de choses par rapport à Dieu. Il a conscience que Dieu est tout. Quand il réfléchit à Dieu, il se dit, oh, moi, je ne suis rien. Je ne suis pas venu au monde par moi-même. Je ne me suis pas donné l'existence. Mon existence, c'est une existence reçue. Donc, de qui j'ai reçu l'existence? Certainement, mon corps vient de mes parents, mais mon âme, elle, qui est immatérielle, elle vient de Dieu. Et donc, qui est Dieu? Et donc, l'homme a une certaine idée, peut se faire par son intelligence, une certaine idée de Dieu. Et alors, dès lors que l'homme a cette idée de Dieu, donc d'un Dieu infiniment grand par rapport à lui, il sent en lui le besoin de manifester sa dépendance à l'égard de Dieu, de montrer en fait à Dieu que l'existence qu'il a est une existence qui est reçue. Alors, de quelle manière l'homme va-t-il exprimer à Dieu cette dépendance? Eh bien, en offrant à Dieu des choses sensibles et matérielles pour exprimer l'entière soumission de son être. Donc l'homme va choisir dans la création ce qu'il y a de plus noble, ce qu'il y a de plus grand, pour essayer de l'offrir à Dieu, pour rendre à Dieu en quelque sorte ce qu'il a reçu de Dieu, pour manifester le souverain domaine de Dieu sur toute créature. Et c'est ainsi que l'homme a aimé offrir à Dieu, eh bien, soit des végétaux. Par exemple, on voit Caïn qui offrait les fruits de des arbres dont il s'occupait. Ou on voit aussi Abel qui offrait les premiers-nés de son troupeau. Donc soit des végétaux, soit des animaux. Et en offrant à Dieu donc ces végétaux ou ces animaux, Caïn et Abel, même si après Caïn malheureusement ne le faisait pas avec une intention aussi pure, c'est pour ça que son sacrifice n'était pas agréable à Dieu, mais il voulait en tout cas par là manifester à Dieu leur dépendance. Et dans tous les cas, ce sacrifice extérieur, cet agneau qui était immolé par exemple, eh bien, exprimait en fait l'état intérieur de l'âme de celui qui offrait cet animal ou ce végétal. Donc le sacrifice extérieur de l'animal ou du végétal avait pour but d'exprimer les dispositions intérieures de l'âme de l'offrant. Et c'est pourquoi le sacrifice visible, le sacrifice extérieur, comme dit saint Augustin, est le signe sacré du sacrifice invisible, du sacrifice intérieur de l'âme. Et précisément, si le sacrifice d'Abel, de Caïn n'a pas été agréable à Dieu, c'est parce que Caïn a offert son sacrifice à Dieu, mais d'une façon beaucoup trop matérielle et pas assez spirituelle. Alors que Abel, lui, qui offrait les premiers-nés de son troupeau, les premiers-nés montrent que c'était ce qu'il y avait de premier. Donc ce qu'il y a de premier, c'est tout de suite pour le bon Dieu. Et il offrait notamment les graisses, c'était la partie la plus riche de l'animal. Montrant par là encore, il n'y a rien de plus beau pour le bon Dieu, rien de trop grand pour le bon Dieu, et c'est dans cet esprit qu'Abel offrait ce sacrifice à Dieu, et c'est pourquoi le sacrifice d'Abel était agréable à Dieu. Mais donc, dès le début de l'histoire de l'humanité, donc on voit l'homme qui offre des sacrifices à Dieu pour exprimer sa dépendance, mais ce sacrifice extérieur n'a de valeur qu'en tant qu'il exprime le sacrifice intérieur de l'âme de l'offrant. Maintenant, j'ai dit qu'il y a dans donc le sacrifice une offrande. L'offrande soit d'un végétal, soit d'un animal. Maintenant, il ne suffit pas d'offrir ces éléments pour qu'on puisse parler de sacrifice. Il faut d'une certaine manière opérer la translation de la matière offerte au domaine de Dieu. Faire en sorte que cette matière soit rendue impropre à un autre usage, et par conséquent soit ensuite offert à Dieu. Alors de quelle manière se dessaisir de cette chose matérielle? Eh bien par exemple c'était le signe du vin qui était jeté en libation. En le jetant en libation on ne pouvait plus le boire bien sûr, et donc il était en quelque sorte détruit. Et l'agneau, eh bien lui-même aussi était immolé, donc on le tuait, et par là aussi il était détruit. Donc il y a une certaine destruction qui était opérée donc dans tout sacrifice, qui le rendait donc inutilisable, impropre à un usage humain, pour manifester que cet objet offert, cet être offert, appartenait à Dieu. Donc le premier but du sacrifice, c'est d'exprimer à Dieu sa totale dépendance. C'est le premier but, c'est la première fin du sacrifice. À ce premier but, maintenant, s'ajoutent d'autres aspects dérivés. En effet, s'il est vrai que l'homme a conscience que sa vie lui vient de Dieu et que tout ce qu'il a, il l'a reçu de Dieu, eh bien spontanément, comme il sait que c'est Dieu qui est son premier bienfaiteur, il va se tourner vers Dieu pour lui demander ce dont il a besoin. D'où les sacrifices de demande. Donc, en plus du sacrifice qui manifeste la dépendance, il va y avoir une deuxième forme du sacrifice, ce sera le sacrifice de demande. Donc, pour implorer certaines bénédictions de Dieu, eh bien, l'homme, dans l'Ancien Testament, déjà, offrait des sacrifices à Dieu, sacrifice de demande. Ensuite, puisque c'est Dieu qui est le premier bienfaiteur, lorsque le bon Dieu, eh bien, m'est favorable, lorsqu'il me bénit, eh bien, là encore, je dois l'en remercier. Et donc, c'est encore un troisième mode du sacrifice, c'est le sacrifice d'action de grâce. Puisque je sais que tout ce que j'ai, je l'ai reçu de Dieu, eh bien, je dois remercier le bon Dieu pour tout ce que j'ai reçu de lui. Et puis, enfin, dernier aspect, donc ce n'est pas le premier aspect du sacrifice, c'est le dernier aspect, c'est le péché qui va imposer maintenant au sacrifice des modalités spéciales. En effet, si c'est vrai, comme je viens de le dire, que ce n'est pas en raison du péché que le sacrifice a été institué, et que ce n'est pas à cause du péché que le sacrifice comporte l'action de destruction dont je viens de parler, il se trouve cependant que le sacrifice est le moyen le plus approprié pour réparer le péché. En effet, quelle manière plus heureuse d'expier son péché après s'être follement attaché à une créature que de s'en priver par le sacrifice, que de le restituer en quelque sorte à Dieu. Quelle manière plus heureuse, après s'être détourné de Dieu, que de revenir vers lui par un acte où se trouve enfermée l'adoration humble et pénitente, que de signifier par l'immolation d'une victime que l'on se soumet entièrement aux exigences de Dieu. Et s'il est vrai encore que si la substitution est de l'essence du sacrifice, puisque la notion de sacrifice comporte le transfert de propriété, donc à Dieu, celle-ci apparaît encore plus manifeste dans le sacrifice pour le péché. En effet, face à son péché, l'homme a conscience que rien au monde ne pourrait suffire pour obtenir son pardon. Donc il faudrait qu'il s'immole lui-même en sacrifice. Mais puisque c'est impossible que l'homme s'immole lui-même en sacrifice, dans le sens où il n'est pas possible de se donner la mort, puisque Dieu seul est maître de la vie, eh bien, l'homme spontanément cherche une créature qui soit la plus noble, comme je dis, dans la création, pour que cette créature, en son nom, en quelque sorte, eh bien, soit offerte à Dieu. Donc il y a une victime qui, en quelque sorte, va se charger de ses propres péchés pour les anéantir avec elle. Et c'est là le sens du sacrifice pour le péché. Donc c'est le sens, par exemple, du bouc émissaire, voyez, dont on chargeait des péchés du peuple. Et le prêtre, lorsqu'il chargeait ainsi l'animal des péchés du peuple, il mettait les mains comme cela. Donc il joignait les mains l'une sur l'autre, voyez. Et c'est le même geste que le prêtre fait à l'Ankijitur au moment de la consécration. Juste avant la consécration, c'est le moment où l'enfant de cœur sonne la cloche. En ce moment-là, le prêtre, il dit « Ankoblationem ». Et donc, il porte ainsi les mains sur les oblats, manifestant par là comment notre Seigneur lui-même, bien sûr, a porté sur lui le poids de nos propres péchés. Et puis enfin, dans beaucoup de cas chez les anciens, le sacrifice se termine par la manducation d'une partie de la victime. Donc on consommait une partie de la victime. Et par là, l'homme voulait manifester le désir qu'il avait de rentrer en quelque sorte en société avec Dieu. Puisque l'animal qui était ainsi sacrifié devenait propriété de Dieu, en consommant une partie de cet animal, l'homme voulait manifester par là le désir qu'il avait de s'unir plus intimement à Dieu. Alors, après avoir vu la part de l'homme dans le sacrifice, il reste maintenant à considérer brièvement la part de Dieu. Quel rôle Dieu tient-il dans la consécration de la victime ? Comme son nom l'indique, sacrificare veut dire sacrum facere, veut dire donc rendre sacré l'objet offert. Or, bien sûr, il va de soi que Dieu seul peut consacrer un être. Donc l'homme ici n'est qu'un instrument de Dieu. Donc la consécration a pour résultat d'établir cet être en appartenance étroite avec Dieu. Donc l'homme ici n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Donc l'homme ne peut en quelque sorte n'exprimer qu'un désir, qu'une prière. Mais ensuite, le sacrifice ne sera parfait qu'au moment où Dieu va répondre au désir de l'homme en agréant la victime qui lui est offerte. Et donc Dieu va agréer non seulement le don de la victime offerte, mais encore ce don plus intime de l'âme dont la victime est le signe. Donc chaque fois qu'il y a un sacrifice qui est offert, pour que le bon Dieu reçoive en quelque sorte la victime qui lui est offerte, il faut en ce moment-là que les dispositions de l'offrant soient en conformité avec la victime qui est offerte. Puisque ce que le bon Dieu veut voir, en fait, c'est la disposition de l'homme. La disposition intérieure de l'homme. Donc on voit par là que pour qu'un sacrifice soit agréable à Dieu, il faut bien sûr que la victime, choisir une victime qui puisse lui être agréable, et puis ensuite, il faut ensuite que le prêtre qui s'unit à la victime puisse lui-même exprimer intérieurement les sentiments qu'il doit exprimer pour que Dieu puisse le recevoir avec condescendance. Alors, si vous comprenez maintenant ces différents éléments du sacrifice, présents déjà dans l'Ancien Testament, et qui sont déjà, si vous voulez, font partie de la religion naturelle, dans le sens où on voit que Caïn et Abel ont offert des sacrifices à Dieu, avant même que Dieu prescrive les sacrifices à Moïse. Donc Dieu ensuite a prescrit les sacrifices à Moïse, mais avant même que Dieu prescrive les sacrifices, l'homme déjà offrait des sacrifices. Et si l'homme offrait des sacrifices, c'est parce que c'est dans la nature de l'homme de manifester, comme je l'ai dit, notre dépendance à l'égard de Dieu, notre action de grâce, notre demande, et puis ensuite notre regret par rapport au péché qu'on a commis. Alors, comparé aux autres sacrifices de l'ancienne loi, le sacrifice de notre Seigneur, maintenant, sur la croix, va revêtir des modalités particulières. Tout d'abord, dans le sacrifice de notre Seigneur sur la croix, notre Seigneur va apparaître à la fois prêtre et victime. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, par exemple, Caïn a offert un sacrifice. Abel a offert un sacrifice. Donc, Abel, en quelque sorte, c'était comme le prêtre, et l'animal était la victime. Mais notre Seigneur lui-même s'est offert comme victime. Donc, notre Seigneur apparaît à la fois prêtre, donc celui qui offre, et à la fois la victime, celui qui est offert. Donc, notre Seigneur apparaît à la fois comme prêtre et victime, alors que dans les autres sacrifices, le prêtre et la victime sont différents. Ensuite, au lieu d'y avoir une distinction parfaite entre le sacrifice visible, l'immolation de l'agneau par exemple, et le sacrifice invisible, qui est le don de soi, il n'y a dans le sacrifice de notre Seigneur qu'un sacrifice qui présente un double aspect. Un aspect intérieur, qui est l'offrande que notre Seigneur fait de lui-même à Dieu son Père, donc disposition intérieure de notre Seigneur qui s'offre à Dieu, et un aspect extérieur, qui est cette même offrande manifestée par ses souffrances et par sa mort. Donc l'aspect intérieur, c'est la disposition intérieure de l'âme de notre Seigneur, qui accepte la mort, et l'aspect extérieur, mais sont les souffrances et la mort de notre Seigneur. Et puis enfin, dernière particularité, le sacrifice de notre Seigneur s'est accompli à l'occasion d'un véritable crime, d'une mise à mort injuste et odieuse. Ce sont les bourreaux qui ont mis à mort notre Seigneur, mais ce ne sont pas eux qui ont fait, bien sûr, de notre Seigneur une hostie sainte et immaculée. Ce qui a fait que notre Seigneur a été une hostie sainte et immaculée, c'est l'acceptation des outrages par notre Seigneur. Donc c'est l'acceptation des outrages qui constitue son acte sacerdotal. Si notre Seigneur est une victime, c'est parce qu'il s'est offert volontairement. Donc voilà, si vous voulez, les éléments principaux pour mieux comprendre ce que c'est que la messe, donc bien saisir déjà ce que c'est qu'un sacrifice, et bien voir ensuite en quoi a consisté le sacrifice de notre Seigneur en sachant que le sacrifice de notre Seigneur, là encore aussi, c'est peut-être un dernier aspect. Donc on s'est retrouvé, enfin c'est produit en trois temps en quelque sorte, puisque on constate, si on prend l'image de l'agneau qui était offert, qu'il y avait trois étapes en fait dans le sacrifice d'un agneau. On commençait tout d'abord par offrir le sacrifice, par faire en sorte que cet agneau soit mis en quelque sorte dans la propriété de Dieu. Donc il y avait l'offrande de la victime. Ensuite il y avait l'immolation de la victime par le sang versé. Et puis après il y avait la mendication de la victime, de la consommation de la victime. Donc offrande, immolation, consommation de la victime, trois temps. En notre Seigneur, l'offrande a commencé, en fait, dès le premier instant de son incarnation. L'immolation a eu lieu au calvaire. Notre Seigneur est mort, le vendredi saint, 15h de l'après-midi. Donc l'immolation a lieu le vendredi saint à 15h. Mais l'offrande de la victime a eu lieu dès le premier instant de son incarnation, puisque notre Seigneur s'est offert comme victime dès lors qu'il est venu en ce monde. Il y a un passage de saint Paul aux Hébreux où saint Paul exprime en fait les dispositions intérieures de l'âme de notre Seigneur venant en ce monde. Et saint Paul dit, en parlant, c'est notre Seigneur qui parle à son Père, « Père, vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation, alors vous m'avez formé un corps. » Et pourquoi me voulait-il former ? Pour que je fasse, Seigneur, votre sainte volonté. Donc, par là, on voit les dispositions intérieures de notre Seigneur. Notre Seigneur voit l'insuffisance des sacrifices de l'Ancien Testament. J'ai dit qu'il y avait certaines conditions, en fait, pour que les sacrifices de l'Ancien Testament soient agréés par Dieu, donc soient acceptés par Dieu. En réalité, si ces sacrifices ont été acceptés par Dieu, c'était uniquement en tant qu'ils étaient figures du sacrifice de notre Seigneur. Dieu, par avance, voyait à travers l'agneau pascal qui était immolé, voyait en fait l'agneau de Dieu qui est son propre fils, qui un jour devrait s'immoler pour nous sur l'autel. Et donc si Dieu agréait l'agneau qui était immolé, c'était uniquement par anticipation du sacrifice de son fils. Donc tous les sacrifices de l'Ancien Testament, si vous voulez, n'avaient de valeur qu'en tant qu'ils figuraient, qu'en tant qu'ils annonçaient le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de religion sans sacrifice, puisque je vous dis que la première relation que l'homme cherche à établir vis-à-vis de Dieu se manifeste par le sacrifice, sentiment primitif de l'homme qui veut manifester sa dépendance à l'égard de Dieu, qui se manifeste par le sacrifice, qu'il y a eu un certain nombre de sacrifices dans l'Ancien Testament qui ont été agréables ou pas agréables à Dieu, suivant les dispositions de l'offrande, mais lorsque ces sacrifices étaient agréables, c'était uniquement en tant qu'ils figuraient, qu'ils annonçaient le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est capital, si vous voulez, de comprendre, pour bien comprendre ce que c'est que la messe qui va reproduire le sacrifice de notre Seigneur. Et pour mieux comprendre encore l'abomination, si vous voulez, de cette nouvelle messe par laquelle on a voulu se rapprocher des protestants, où on a voulu finalement évacuer le sacrifice, voyez. Et en évacuant le sacrifice de la messe, on évacue en même temps le sacrifice de la religion. Et si on évalue le sacrifice de la religion, ben il n'y a plus de religion. Parce que c'est dans l'essence même de la religion, cette notion de sacrifice. Donc après avoir vu que l'offrande de notre Seigneur s'est produite dès l'instant de son incarnation, donc l'immolation ensuite a eu lieu au calvaire lorsque notre Seigneur a versé tout son sang pour nous. Et notre Seigneur a versé tout son sang au point que saint Jean insiste là-dessus, sur le fait qu'au moment où notre Seigneur était mort, donc il avait déjà versé, on pourrait dire presque tout son sang, il a encore eu le cœur percé par la lance. Et en ce moment-là, saint Jean dit qu'il a vu sortir du sang et de l'eau. Il insiste sur le sang et l'eau. Alors c'est vrai que l'eau symbolise le baptême, le sang symbolise l'Eucharistie, mais en même temps s'il dit qu'il y a eu du sang et de l'eau, c'est pour montrer que notre Seigneur a versé pour nous jusqu'à la dernière goutte de son sang. Donc immolation au calvaire, et la mendication maintenant de la victime, qui faisait partie donc du troisième temps de la victime, je disais qu'il y avait l'offrande de la victime, l'immolation et la consommation, donc là la mendication de la victime a eu lieu par anticipation le soir du jeudi saint. Notre Seigneur s'est donné en nourriture à ses apôtres, le soir du jeudi saint. Pourquoi l'a-t-il fait le soir du jeudi saint? Bien tout simplement parce qu'une fois qu'il était mort, il ne pouvait plus se donner en nourriture à ses apôtres. Donc il l'a fait de son vivant. Donc il l'a fait par anticipation. Mais ne détachons jamais les paroles que notre Seigneur a prononcées le jeudi saint du calvaire. Voyez, donc c'est le fruit anticipé du calvaire. Donc les paroles de la consécration prononcées sur le pain et sur le vin le soir du jeudi saint à la Sainte Cène. Alors maintenant que vous avez mieux saisi peut-être ce que c'est que le sacrifice en général, vu ce qu'a été le sacrifice de notre Seigneur sur la croix, voyons ce qu'est le sacrifice de la messe. Le Concile de Trente nous dit que la messe est un sacrifice visible qui rend présent le sacrifice de la croix. Il ajoute « afin que son souvenir soit maintenu ». Donc c'est un sacrifice qui rend présent le sacrifice de la croix, afin que son souvenir soit maintenu et que la vertu du sacrifice du calvaire soit appliquée à tous les fidèles. Donc le Concile de Trente ici fait mention en fait d'un événement présent, d'un événement passé et d'un événement futur. Qu'est-ce que c'est que la messe ? C'est un sacrifice qui rend présent le sacrifice de la croix, événement présent. La messe nous remet sous les yeux le sacrifice du calvaire. Afin que son souvenir soit maintenu, c'est l'aspect donc du souvenir, donc rappel d'un événement passé, le fait que notre Seigneur est mort pour nous il y a 2000 ans. Et puis ensuite, que la vertu du sacrifice du calvaire soit appliquée à tous les fidèles. Là ici, il s'agit de montrer en fait quel fruit aujourd'hui nous pouvons recevoir de la messe, à savoir le fait que cette vertu du sacrifice puisse nous être appliquée. Et puis donc l'événement futur, donc il n'est pas fait mention ici, mais il est dit un petit peu plus loin que comme l'a dit notre Seigneur lui-même, que la Sainte Eucharistie est le gage de la vie éternelle, et donc il y a en quelque sorte le sacrifice de la messe, eh bien annonce là encore cette vie future donc que nous aurons au ciel avec notre Seigneur. Alors tout d'abord, le premier aspect, c'est l'aspect de mémorial. Donc l'aspect de mémoire. Donc c'est vrai, dans l'aspect, les protestants, si vous voulez, donc se trompent lorsqu'ils disent qu'à la messe, on fait mémoire, ou dans la scène, on fait uniquement mémoire. Donc ils se trompent dans le fait qu'ils ne disent qu'on ne fait que mémoire. Mais par contre, ce qui est juste, c'est qu'aussi, on fait mémoire. C'est vrai qu'on fait mémoire. Maintenant, on va voir de quoi on fait mémoire. Donc la messe a été instituée pour nous rappeler le sacrifice de la croix. Donc on peut dire que toute la vie de notre Seigneur était orientée vers le calvaire, vous voyez. Spécialement en Saint Jean, très souvent, il y a l'expression « mon heure » qui revient, sans cesse, en Saint Jean. « Mon heure, mon heure, mon heure. Mon heure n'est pas encore venue. » Ou alors « mon heure vient. » Ou « voici mon heure. » Notre Seigneur parle très souvent de son heure. Eh bien, quand il est fait mention de son heure, c'est l'heure par laquelle il va donner sa vie pour nous. Donc, toute la vie de notre Seigneur est centrée sur le calvaire. Donc, on a vu que tous les sacrifices de l'Ancien Testament n'ont de valeur qu'en tant qu'ils figuraient le sacrifice de la croix. Toute la vie de notre Seigneur est centrée sur cette mort douloureuse et glorieuse en même temps. Donc, le sacrifice du calvaire est l'événement capital de l'histoire de l'humanité. Par conséquent, vu que la mémoire a la faculté d'oublier, vu que l'homme oublie très facilement, il était capital que nous n'oublions pas ce que notre Seigneur a fait pour nous. Et donc, notre Seigneur a institué la messe pour que nous gardions sans cesse en mémoire tout ce qu'il a fait pour nous il y a 2000 ans. Donc, c'est vrai que la messe est un mémorial. Elle n'est pas qu'un mémorial, mais elle est aussi un mémorial. Maintenant, elle est un mémorial, mais attention, elle est un mémorial de la passion, et non pas un mémorial d'un banquet festif. Donc la messe est en relation avec la croix, et non pas avec la scène. Ou plus exactement, La scène elle-même n'est pas un banquet, mais la première représentation de la croix. La scène tire sa valeur de la croix. Donc la messe est là pour nous rappeler le sacrifice de la croix. Donc il s'agit pour nous de ne pas oublier tout ce que notre Seigneur a fait pour nous. Il y a une parole de l'Ancien Testament qui dit « Le juste meurt et personne n'y songe dans son cœur. » Le juste meurt et personne n'y songe dans son cœur. Donc on voit par là la tristesse en fait du cœur de notre Seigneur de voir qu'il y a si peu d'hommes à tenir compte de tout ce qu'il a fait pour nous. Quand on sait qu'une seule goutte de son sang, ou même un seul acte d'amour, aurait suffi pour racheter le monde entier. Pourquoi notre Seigneur a-t-il voulu tant souffrir? Eh bien, c'est pour qu'on puisse comprendre la gravité du péché, et pour qu'on puisse comprendre le degré de l'amour qu'il nous porte. Suis-je aimé de Dieu? Regardons ce qu'il a fait pour moi. Si notre Seigneur m'avait sauvé uniquement par un simple acte d'amour, eh bien, j'aurais pu mettre en doute, je n'aurais pas dû, mais j'aurais pu mettre en doute son amour. Mais en voyant toute cette somme de souffrance, eh bien, on se dit, s'il ne m'aimait pas, il n'aurait pas été capable de tant souffrir pour moi. Vous voyez bien vous-même que votre générosité dépend en grande partie du degré d'amour que vous portez aux personnes auprès desquelles donc vous vous rendez pour leur rendre service. Si c'est une personne que vous aimez beaucoup qui vous demande un service, ce service vous coûte très peu. Si vous l'aimiez encore davantage, ce service vous coûterait moins. Et au contraire, si vous ne l'aimez pas, le moindre sacrifice nous pèse quand on n'aime pas quelqu'un. Donc quand on voit cette somme de souffrance endurée par notre Seigneur pour chacune de nos âmes, parce que notre Seigneur n'aime pas les âmes en série, mais les âmes, il les aime personnellement, chacune d'entre elles. Donc il m'aime personnellement. Si notre Seigneur a tant souffert pour moi, c'est parce qu'il m'aime. Et notre Seigneur, donc, voulant nous montrer comme il nous aime, il a voulu tant souffrir. Donc il est capital, bien sûr, de ne jamais oublier tout ce que notre Seigneur a fait pour nous. Et comme l'homme a tendance à oublier, eh bien notre Seigneur a voulu nous remettre sous les yeux ce sacrifice du calvaire. Mais maintenant, notre Seigneur n'a pas dit « faites mémoire de ceci », mais il a dit « faites ceci en mémoire ». Donc il ne s'agit pas uniquement de faire mémoire, il s'agit de reproduire, de réactualiser, de réactuer ce sacrifice du calvaire, de le remettre sous nos yeux. Donc pas uniquement de se souvenir d'un événement passé, comme on regarde, on a filmé un événement important, et 10 ans après, on regarde le film pour se rappeler les bons moments qu'on a vécu il y a 10 ans. Donc là, il ne s'agit pas de se rappeler uniquement ce que le Seigneur a pu faire pour nous. Il s'agit ensuite de réaliser qu'il reproduit sous nos yeux, en fait, ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Et donc, c'est le deuxième aspect. Donc, premier aspect, c'est l'aspect mémorial. Deuxième aspect, c'est l'aspect du sacrifice qui est renouvelé sur nos autels. Donc, le prêtre est le même à la messe, la victime est la même, seule la manière d'offrir est différente. Donc, à la messe, il n'y a plus d'effusion de sang. Vous voyez, notre Seigneur ne meurt plus. Il n'y a pas de nouvelle mort de notre Seigneur. Mais les fruits de sa mort, par contre, sont répandus, auprès de tous les fidèles. Donc, le sacrifice suppose un prêtre et une victime, et donc, à la messe, notre Seigneur est à la fois prêtre et victime. Ça, c'est aussi très important parce que la tendance peut-être naturelle, spontanée des fidèles, c'est de voir à travers notre Seigneur à travers la victime, c'est-à-dire dans l'hostie. Ça y est, notre Seigneur est là parce qu'il est là sur l'autel, ce qui est vrai. Donc notre Seigneur est victime, mais notre Seigneur, c'est aussi le prêtre à la messe. Et c'est si vrai que le prêtre à la consécration ne dit pas « ceci est le corps du Christ », mais dit « ceci est mon corps ». Et c'est mon corps, c'est pas le corps de M. l'abbé Touvenot, le corps de l'abbé Toulza, le corps de l'abbé Troidec. C'est le corps de notre Seigneur. Donc ceci est mon corps, c'est-à-dire qu'il s'identifie complètement. Et c'est l'un des motifs pour lequel, à mon avis, un argument de convenance, il y en a bien d'autres, pour laquelle c'est très bien que le prêtre, que les fidèles ne voient que le dos du prêtre. Enfin, voient le prêtre de dos. Parce que le visage, disons, exprime davantage ce qu'est une personne, et il est capital de ne pas oublier que le prêtre, c'est notre Seigneur. Et c'est si vrai aussi que si, par exemple, à la messe, j'imagine, un cas qui a dû se produire, à la messe, un prêtre tombe dans les pommes, s'évanouit, juste après la consécration. Et en ce moment-là, les fidèles se sont bien embêtés. Et alors, que faire dans ce cas-là? Bon, s'il y a un autre prêtre à côté, en ce moment-là, le prêtre doit continuer la messe. Donc, il ne va pas reprendre la messe depuis le début. Parce que justement, c'est le même prêtre qui offre la messe. Le prêtre, c'est notre Seigneur. Et donc, le prêtre continue exactement à l'endroit où le prêtre était arrivé. Donc, le prêtre à la messe, c'est notre Seigneur. Et ça, c'est important d'avoir ce regard de foi, vous voyez, parce qu'il y a des gens qui peuvent parfois être... Bien sûr que c'est à nous, prêtres, aussi, de nous effacer au maximum à la messe. Donc, ne pas dire la messe d'une certaine manière, de telle sorte que de se faire remarquer. Donc, on doit essayer de s'effacer le maximum. Et alors, c'est vrai que s'il y a des prêtres qui sont trop lents pour dire leur messe, mais ils agacent les fidèles, parce qu'ils vont rater leur bus, ou je sais pas quoi, ou... Et si le prêtre précipite, ben, on n'arrive pas, on a beau tourner les pages du missel, bon. On sait jamais où on en est, bon. Donc, c'est à nous d'essayer de dire la messe à peu près à un rythme qui puisse vous convenir. D'abord, convient à notre Seigneur, puis vous convient en même temps. Mais, ceci étant dit, ensuite, après, il faut se dire, c'est notre Seigneur qui offre le Saint-Sacrifice de la messe. Saint Jean Chrysostome disait, lorsque tu vois le prêtre qui offre le sacrifice, considère la main du Christ invisiblement étendue. Donc, à la messe, le prêtre, c'est notre Seigneur. Et à la messe, la victime, c'est aussi notre Seigneur. Et la mort de notre Seigneur est représentée par la double consécration. Donc, dans tout sacrifice, on a vu qu'il y a séparation du corps et du sang. Donc, immolation de l'agneau, donc il y a le sang qui coule, donc le sang d'un côté, le corps de l'autre, immolation. Eh bien, ici, à la messe, j'ai dit que notre Seigneur ne meurt plus, donc il n'y a plus une séparation comme au calvaire, mais il va y avoir une séparation des signes apparents. À savoir, les signes apparents, c'est donc l'hostie d'un côté, et puis ensuite le vin qui va devenir le précieux sang. Ce sont ça les signes apparents. Donc il y a une séparation des signes apparents, à savoir que les paroles de la consécration sont d'abord prononcées sur l'hostie, et ensuite sont prononcées donc sur le vin qui va devenir le corps, le précieux sang de notre Seigneur. Et donc quand le prêtre dit à la messe, « Ceci est mon corps », il appelle en quelque sorte le corps de notre Seigneur qui descend sur l'autel. En appelant le corps de notre Seigneur, vient en même temps que le corps, le sang, l'âme et la divinité, parce que notre Seigneur est vivant. Donc quand il vient, on appelle son corps, ben, le sang reste pas au ciel. Le sang descend en même temps, vous voyez. Et comme notre Seigneur est vivant, ben, puisqu'il est vivant, ben, l'âme vient aussi en même temps. Et puisqu'il est Dieu, ben, la divinité vient en même temps. Mais viennent en vertu du corps. On appelle le corps et le sang, l'âme et la divinité viennent en même temps, mais en vertu du corps. Mais pour qu'il y ait sacrifice, eh bien, il ne suffit pas que notre Seigneur, que le prêtre prononce les paroles de la consécration uniquement sur l'hostie. Et là encore, c'est aussi vrai que si de fait le prêtre tombe dans les pommes, donc entre la consécration du corps et la consécration du précieux sang, et qu'on n'arrive pas à trouver un autre prêtre, eh bien, il n'y aura pas eu de sacrifice de la messe. Notre Seigneur est présent là, mais il n'y a pas eu de sacrifice. Pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait la séparation des signes apparents. Séparation des signes apparents qui manifestent cette mort de notre Seigneur qui s'est déroulée pour nous il y a maintenant bientôt 2000 ans. Et donc le prêtre ensuite va dire sur les paroles, va prononcer les paroles de la consécration sur le précieux sang. Il va dire « Ceci est mon sang ». Et donc il va appeler en quelque sorte le sang de notre Seigneur qui va descendre sur l'autel. Et appelant le sang, viennent en même temps le corps, l'âme et la divinité, mais en vertu du sang. Donc c'est cette séparation des signes apparents qui font de la messe un sacrifice. Et donc cette double consécration manifeste sacramentellement la mort de notre Seigneur. Et cette double consécration ne va pas uniquement manifester cette mort, mais va reproduire maintenant les effets de la mort, à savoir eh bien, la sanctification de nos âmes et l'application des mérites de la Passion. Donc si les mérites de la Passion peuvent nous être appliqués à la messe, c'est en raison eh bien, du fait que la messe est réellement un sacrifice. Alors quels sont les effets de la Passion qui se retrouvent à la messe? Eh bien, parmi les effets de la messe, les uns regardent Dieu et les autres nous regardent. Donc à la messe, notre Seigneur rend gloire à Dieu son Père et rend à son Père une gloire infinie. Et ceci, quelle que soit la sainteté du prêtre. À chaque messe, notre Seigneur rend à Dieu son Père une gloire infinie. De même, à la messe, notre Seigneur rend grâce à son Père pour tous les dons de Dieu, pour les trésors de la création, pour la rédemption, pour le salut de nos âmes. L'action de grâce, en fait, consiste à rendre en quelque manière ce que l'on nous a donné. Or, justement, le plus grand don que l'homme ait reçu, c'est l'immolation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, à la messe, notre Seigneur offre à son Père, en quelque sorte, le sacrifice de la croix. Donc la messe a une valeur infinie, un prix infini, en raison de la louange et de l'action de grâce de notre Seigneur, qui sont les mêmes à la messe qu'au calvaire. Et donc ces effets sont infaillibles, quelle que soit la sainteté du prêtre, ou la sainteté des fidèles. Par contre, les deux autres effets de la messe, maintenant, vont dépendre et de la sainteté du prêtre et de la sainteté des fidèles. À la messe, notre Seigneur va réparer pour nous et va prier pour nous. Mais ces deux actes de réparation et de prière ont une efficacité plus ou moins grande en fonction de notre réceptivité à la grâce. Donc le but de la messe est de nous appliquer les mérites de la passion, mais ces mérites de la passion nous sont appliqués en fonction de nos dispositions intérieures. Donc en fonction des dispositions intérieures du prêtre, et en fonction ensuite de la disposition intérieure aussi des fidèles. Alors quelles sont les dispositions, pour vous fidèles, pour bien assister à la messe? Quelles dispositions vous devez avoir pour bien assister à la messe? Au moment du concile, on a dit, oh, les laïcs ne participent pas assez, il faudrait qu'ils participent davantage. Et donc, depuis le concile, on s'est dit, ça y est, il faut qu'ils participent. Alors, on a pensé que, pour qu'ils participent davantage, c'était très important, de faire en sorte que les fidèles puissent prendre le micro, puissent lire l'épître, lire l'évangile, jouer de la guitare, taper dans leurs mains, donner la communion. Ça, c'est le concept de participation, donc, tel qu'il est vécu, malheureusement, dans beaucoup d'endroits depuis le concile. Mais en fait, la vraie participation au Saint-Sacrifice de la Messe, que notre Seigneur réclame de nous, parce qu'il désire que les fidèles participent vraiment, n'est pas de prendre le micro, n'exige pas de distribuer la communion, ni de jouer de la guitare. La participation, en fait, que Dieu attend de vous, c'est de vous unir au souverain prêtre en vous offrant par lui et avec lui. C'est là, en fait, la manière par laquelle vous, fidèles, vous pouvez et vous devez vous offrir à Dieu, donc, vous pouvez participer vraiment au Saint-Sacrifice de la Messe. Donc, vous avez d'abord le pouvoir de vous offrir à la Messe par le prêtre. C'est la première grâce que vous tenez de votre baptême. Vous voyez, en vertu de votre baptême, vous avez reçu le caractère baptismal, et saint Thomas explique bien que Il y a trois sacrements à caractère, vous le savez, le baptême, la confirmation et l'ordre. Et ces trois sacrements à caractère ont un rapport avec le culte divin. Et donc, le caractère baptismal vous permet de participer au culte divin. Mais la participation, c'est justement dans le sens que je l'utilise ici. Donc, ce n'est pas le fait de jouer de la guitare, comme je dis, mais c'est le fait de pouvoir vous unir intimement aux prières du prêtre qui fait descendre notre Seigneur sur l'autel, et après de vous unir avec le prêtre pour offrir notre Seigneur à Dieu. Ensuite, après, la confirmation a aussi un rapport au culte divin, parce que la confirmation va consister et c'est un sacrement qui va vous permettre de défendre le culte divin. Donc si jamais on attaquait un jour notre Seigneur, vous avez ce pouvoir de le défendre, donc en vertu de ce caractère que vous avez reçu à la confirmation. Et le prêtre, alors, lui, a reçu aussi le caractère sacerdotal. Donc, il a reçu en même temps, donc, ce troisième sacrement à caractère, c'est le sacerdoce. Et lui, il a le pouvoir de transmettre le culte divin. Mais donc, les trois sacrements à caractère ont un rapport avec le culte divin. Donc, la possibilité que vous avez d'offrir par le prêtre notre Seigneur à Dieu vient de votre baptême, vient du caractère baptismal. Et c'est si vrai que pendant les premiers temps de l'Église, les catéchumènes, donc ceux qui n'étaient pas baptisés, on leur demandait de quitter l'Église après le sermon. Ils n'étaient pas dignes, en fait, de pouvoir offrir par le prêtre notre Seigneur à Dieu son Père. Donc, avant la consécration, vous avez le pouvoir de vous unir à la prière du prêtre. C'est seul le prêtre qui va faire descendre notre Seigneur sur l'autel. Mais vous pouvez vous unir à cette prière. Et par contre, une fois que notre Seigneur est sur l'autel, vous avez un pouvoir encore bien plus grand. C'est le pouvoir de vous unir aux prières du prêtre pour offrir Dieu à Dieu. Vous avez le pouvoir d'offrir, non plus uniquement par le prêtre, mais avec le prêtre, vous avez le pouvoir d'offrir avec le prêtre, notre Seigneur à Dieu. Et c'est ce qui est exprimé par la prière qui suit immédiatement la consécration. C'est pourquoi, nous, vos serviteurs, le prêtre dit ça, nous, vos serviteurs, donc les serviteurs, c'est les prêtres, et avec nous, votre peuple saint, le peuple saint, c'est vous, les fidèles, donc, nous, vos serviteurs, et avec nous, votre peuple saint, nous offrons à votre divine majesté le don que nous avons reçu de vous, l'hostie pure, l'hostie sainte, l'hostie sans tache. Donc, nous, prêtres, et avec nous, donc vous, fidèles, nous pouvons offrir à Dieu le Père, notre Seigneur. Beaucoup de fidèles se disent parfois, comment mes prières pourront-elles être agréées par Dieu? Moi qui ne suis qu'un pauvre pécheur, moi qui suis qu'une pauvre pécheresse, moi qui suis bien faible. Eh bien, à la messe, vous avez un pouvoir extraordinaire. Vous avez le pouvoir d'offrir notre Seigneur à Dieu son Père. Alors, bien sûr, si notre Seigneur agrée votre prière, c'est pas parce qu'il trouve que vous êtes gentil, que vous êtes sympa, que vous êtes pieuse, que vous êtes bonne. Non. C'est pas avant tout pour cela. C'est parce qu'il voit son Fils. Et il voit tout ce que son Fils a fait pour vous. Et donc, en voyant tout ce qu'il a fait pour vous, eh bien, notre Seigneur lui-même se fait votre avocat auprès de Dieu son Père. Et donc, si votre prière peut être exaucée par Dieu, c'est en raison de ce que notre Seigneur a fait pour vous il y a 2000 ans et de ce qu'il reproduit aujourd'hui pour vous sur l'autel. Donc, retenez bien cela, c'est très important. La première manière de participer à la messe, c'est d'offrir par le prêtre le sacrifice de la messe, en vous unissant à l'intention du prêtre qui lui seul fait descendre notre Seigneur sur l'autel. Et ensuite, vous avez le pouvoir d'offrir avec le prêtre la divine victime. On ne peut rien offrir de mieux à Dieu que Dieu lui-même. Et donc, en offrant ainsi notre Seigneur à Dieu son Père, eh bien, on supplie Dieu le Père d'effacer nos péchés pour que notre Seigneur nous fasse miséricorde et pour que son sang purifie nos âmes. Et parfois, on se dit, comment ça se fait que le bon Dieu puisse encore supporter le monde actuel en voyant tous les péchés les plus abominables qui puissent se faire? Eh bien, certainement que si notre Seigneur supporte encore le monde, c'est en grande partie en raison des messes qui sont célébrées dans le monde. Les messes qui sont le paratonnerre de la colère de Dieu. Le bienheureux Léonard de Pamoris disait « Je crois que si la Sainte Messe n'existait pas, le monde aurait déjà péri, parce que Dieu n'aurait pu supporter plus longtemps le poids de tant de péchés. Je crois que si la Sainte Messe n'existait pas, le monde aurait déjà péri, parce que Dieu n'aurait pu supporter plus longtemps le poids de tant de péchés. » Donc vous voyez, le paratonnerre de la colère de Dieu, eh bien c'est la messe. La messe retient en quelque sorte la justice de Dieu et permet à sa miséricorde de s'exercer. Mais maintenant, pour retirer tous les fruits de la messe, alors, il faut faire encore plus, voyez, que de redonner Dieu à Dieu. Il faut essayer d'épouser, nous prêtres et vous fidèles, essayer d'épouser les sentiments de notre Seigneur. C'est le conseil déjà que donnait saint Paul aux propres fidèles, auxquels il s'adressait, aux Philippiens. Et c'est beau parce que c'est ce passage qui a été choisi par l'Église pour l'épître du dimanche des Rameaux. Donc, le dimanche des Rameaux, c'est la Sainte Semaine, c'est la Semaine Sainte, c'est la semaine où on est en plein milieu, en plein cœur du temps de la Passion. Donc l'Église a choisi ce texte de saint Paul, où saint Paul dit aux Hébreux, aux Philippiens, pardon, « Sentite quod est in Christo Jesu, ressentez en vous ce qui était dans le Christ Jésus ». Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de silence à la messe, voyez. Le fait de parler, par exemple, dans la messe nouvelle, donc non-stop, eh bien ça empêche le recueillement, ça empêche de se mettre dans les dispositions voulues. Donc il faut essayer de se mettre dans les dispositions dans lesquelles se trouvait notre Seigneur, ou pour vous en plus femme, spécialement dans lesquelles se trouvait la très sainte Vierge Marie au pied du calvaire. Il faudrait essayer, en allant à la messe, de se dire quels étaient les sentiments de la Sainte Vierge en allant au calvaire. Il faudrait que j'essaie de reproduire en moi les sentiments de la Sainte Vierge lorsqu'elle assistait son fils au calvaire. Et donc il faut s'unir à sa soumission totale, entière, à la volonté de Dieu. Il faut s'unir à sa louange, à son action de grâce pour tous les bienfaits de la création et de la rédemption. On arrive souvent à la messe avec ses petites intentions particulières, ce qui est très bien, hein, ça nous aide d'ailleurs, c'est un précieux soutien. Mais élargissons aussi un peu notre champ de vision, en essayant à la messe de penser au salut de toutes les âmes, en penser aux âmes du purgatoire, penser à prier pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour tous les pécheurs. Donc il s'agit enfin de s'unir à sa prière de demande pour le salut du genre humain. Et maintenant, pour pouvoir concrétiser cela d'une façon peut-être plus facile, puisqu'il y a trois temps à la messe, comme je vous disais, comme il y a eu trois temps donc dans tout sacrifice, je disais qu'il y avait offrande de la victime, immolation de la victime, consommation de la victime. Donc trois temps. À la messe, eh bien, l'offrande, c'est l'offertoire, l'immolation, c'est la consécration, et la consommation de la victime, c'est la communion. Mais la communion, c'est toujours la communion à la victime. Donc. Et ici, je note, entre parenthèses d'ailleurs, parmi les signes, si vous voulez, du fait que la nouvelle messe, malheureusement, ne rend pas à Dieu toute la gloire qui lui est due, c'est que dans l'offertoire de la nouvelle messe, eh bien, on offre à Dieu le fruit de la terre et du... j'ai oublié les paroles. Enfin. Ah, du travail des hommes. Vous assistez de temps en temps, non? Question piège. Le fruit de la terre et du travail des hommes. Donc là, vous voyez qu'on offre du fruit de la terre et du travail des hommes, donc on offre du pain et du vin. Vous voyez? Et donc, il n'y a pas de rapport entre donc cette offrande et puis le Christ qui veut s'immoler sur l'autel. Donc, on a complètement détaché, si vous voulez, la première partie de la messe de la seconde. Et si on offre vraiment le fruit de la terre et le travail des hommes, on met plutôt l'accent sur la nourriture. C'est le fruit de la terre et le travail des hommes, c'est l'aspect repas. Donc, on a l'impression que la messe, c'est un repas. Alors, si ensuite, après la consécration, on dit en plus... Donc Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est là. Après, on dit qu'il est là, mais on a l'impression en ce moment-là qu'on fait uniquement mémoire en fait d'un événement passé. Donc la nouvelle messe, eh bien, on ne retrouve plus ces éléments essentiels qu'on retrouvait dans tout sacrifice. Et donc c'est ça qui montre bien le dérapage, si vous voulez, de cette nouvelle messe dans une ligne protestantisante. Mais pour vous, alors, pour vous revenir aux dispositions intérieures pour bien assister à la messe, donc j'ai dit qu'il y a trois temps donc dans la messe, l'offertoire, la consécration, la communion. Donc à l'offertoire, il faut s'offrir avec notre Seigneur. C'est là le symbole de la goutte d'eau que l'on mêle au vin à l'offertoire. Donc pendant que le prêtre verse cette goutte d'eau à la messe, pensez à vous offrir et à offrir vos souffrances, vos peines, enfin vous offrir vous-même en union avec notre Seigneur qui va s'immoler sur l'autel. À la consécration, vous devez ensuite vous unir à cette immolation, c'est-à-dire aspirer aussi à devenir victime avec notre Seigneur, pas jouer la victime, mais devenir victime donc en acceptant là encore la part de souffrance que le bon Dieu vous envoie pour faire votre salut. Et puis après, à la communion, ben, vous devez encore vous unir à notre Seigneur pour qu'il vous transforme petit à petit en lui. Alors, si vous voulez être capable d'avoir toujours ces bonnes dispositions pour bien assister à la messe, donc si vous avez bien compris ce que c'est qu'un sacrifice, ce qu'a été le sacrifice de notre Seigneur, ce qu'est le sacrifice de la messe, donc un petit conseil, c'est d'essayer, autant que vous pouvez au moins, d'arriver un petit peu avant la messe, quoi, ne pas arriver à la dernière minute. Bon, ma petite expérience de prêtre m'a montré que, en général, sur les mêmes personnes qui arrivent une demi-heure avant, 20 minutes avant, 10 minutes avant, juste à l'heure, 5 minutes en retard, 10 minutes en retard, un quart d'heure en retard. Donc parfois, il y a peut-être des petites résolutions à prendre de ce côté-là, donc à vous de voir, remettre les pendules à l'heure. Et puis si vous devez surveiller vos enfants pendant la messe, parce que malheureusement il y en a beaucoup qui de mères de famille, c'est leur devoir hein, de bien surveiller leurs enfants pendant la messe, afin que les prêtres puissent prêcher à peu près librement. Chacun a sa manière de louer Dieu. Vous voyez ce petit enfant, pour lui c'est sa manière de louer Dieu. Enfin bon. Donc s'il y a la surveillance des enfants pendant la messe, eh bien c'est bien de lire peut-être les prières du propre de la messe, au moins soit la veille, soit le matin. Ça vous prendra 5-10 minutes, mais ça vous aidera à rentrer un petit peu dans l'esprit de la messe. Donc, si vous voulez vraiment profiter de vos messes, il faut se remettre, vous voyez, dans ces dispositions. Parce que il y a un adage qui dit « assueta vilescunt », donc les choses dont on s'habitue vieillissent. Et donc à force d'assister à la messe, c'est un acte qui est infiniment grand. On le sait, on le pressent, on le saisit un petit peu. Mais à force d'y assister, eh bien, on peut tomber dans une certaine routine. Et donc, pour éviter cette routine, il est nécessaire toujours de se dire qu'est-ce que c'est que la messe, où est-ce que je vais, quelles sont les dispositions que le bon Dieu attend de moi. Et c'est comme ça que vous pourrez pouvoir avoir des messes qui seront plus fructueuses. Alors, juste un mot maintenant sur la communion. J'aurais voulu faire une deuxième partie, donc, que je ne fais pas en raison du temps, pour ne pas être trop long. Juste un mot peut-être sur la communion. Et je voudrais surtout insister sur le fait que la communion, donc, est un remède. Et donc, on peut dire qu'en France, il y a parfois encore, chez certaines âmes, un fond de jansénisme un petit peu, où certaines personnes, donc, ne pensent qu'ils ne peuvent communier que lorsqu'ils sont confessés juste avant, alors qu'ils ne font pas forcément de fautes graves. Donc, ils ont l'impression, en fait, que la communion est une récompense. Mais la communion n'est pas une récompense, hein. La communion est un remède. Regardez toutes les prières qui précèdent ou qui suivent la communion, ou même les post-communion, et bien très souvent, cet aspect médicinal est mis en valeur par l'Église, vous voyez. Que cette communion que je vais prendre me serve de remède et de sauvegarde. Donc de remède par rapport à mes fautes passées et de sauvegarde pour l'avenir. Donc la communion est un remède. Donc, parce que je suis malade, j'ai besoin de communier, vous voyez. C'est notre Seigneur qui nous en a donné l'ordre. Et donc, on ne communie pas parce qu'on estime qu'on est digne de communier. Hein. C'est pas la prière, en tout cas, qu'on vous a appris juste avant la communion. On dit pas, Seigneur, je suis digne de vous recevoir, alors j'approche de vous. Enfin, c'est pas, à moins que vous n'ayez peut-être pas regardé la traduction de la prière, on dit, Domine non sum dignos. Donc, je ne suis pas digne. Donc, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Donc, on fait un acte de foi, un acte de confiance dans l'amour que le bon Dieu nous porte. Et c'est pour ça qu'on approche de lui sereinement, malgré nos faiblesses, voyez. Donc voici ce que disait saint François de Sales à ses fidèles au sujet de la communion fréquente. Si les gens du monde vous demandent pourquoi vous communiez si souvent, dites-leur que c'est pour apprendre à aimer Dieu, pour vous purifier de vos imperfections, pour vous délivrer de vos misères, pour vous consoler en vos afflictions, pour vous appuyer en vos faiblesses. Dites-leur que deux sortes de gens doivent souvent communier. Les parfaits, parce qu'étant bien disposés, ils auraient grand tort de ne point s'approcher de la source et de la fontaine de perfection, et les imparfaits, afin de pouvoir justement prétendre à la perfection. Les forts, afin qu'ils ne deviennent faibles, et les faibles, afin qu'ils deviennent forts. Les malades, afin d'être guéris. Les saints, donc S-A-I-N-S, afin qu'ils ne tombent en maladie. Et que pour vous, comme imparfaites, faibles et malades, vous avez besoin de souvent communiquer avec votre perfection, votre force et votre médecin. Dites-leur que ceux qui n'ont pas beaucoup d'affaires dans le monde doivent souvent communier, parce qu'ils en ont la commodité. Et ceux qui ont beaucoup d'affaires dans le monde, parce qu'ils en ont la nécessité. Et que celui qui travaille beaucoup et qui est chargé de peine, doit aussi manger les viandes solides et souvent de foi. Dites-leur que vous recevez le Saint-Sacrement pour apprendre à le bien recevoir. Parce que l'on ne fait guère bien une action à laquelle on ne s'exerce pas souvent. Communiez souvent filoté, et le plus souvent que vous le pourrez, avec la vie de votre père spirituel. Comme le disait un saint, il est mieux de s'en approcher par charité que de s'en éloigner par humilité. Alors maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir des circonstances, si vous voulez, hein, vous êtes juste énervé encore dans la voiture, juste avant d'arriver à la messe, bon, vous sentez que ça bouillonne encore intérieurement, c'est peut-être pas forcément le moment idéal pour communier. Donc après, à vous de voir, si vous voulez, même si vous n'êtes pas péché gravement, il peut y avoir des circonstances qui font que vous ne communiez pas. Mais ne vous éloignez pas, en tout cas trop facilement, de la Sainte Communion. En tout cas, ne vous éloignez pas par scrupule. Et ne faites pas la communion une récompense parce qu'elle n'est pas une récompense. La communion est une nourriture. Donc si ça se donne sous l'aspect du pain et du vin, le pain et le vin, donc c'est une nourriture et une boisson commune. Donc c'est pour bien montrer, si notre Seigneur l'a donné sous cette forme-là, c'est bien pour montrer qu'il veut, lui, venir en nous régulièrement. Et c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous change. Donc si on le reçoit pas, ben on sera encore plus tiède. Donc c'est un acte de foi dans cette transformation que notre Seigneur opère en nous. Parce que la différence qu'il y a entre une nourriture normale, si vous voulez, la Sainte Communion, c'est que quand vous mangez un beefsteak, bon, le beefsteak se transforme en vous, vous voyez. Mais ici, c'est quand on se nourrit de l'hostie, c'est nous qui nous transformons en notre Seigneur, petit à petit, progressivement, lentement. Alors vous aimeriez bien voir, bien sûr, des résultats plus sensibles, plus visibles, mais le Seigneur le cache. Et s'il le cache, c'est justement pour notre bien. Parce que sinon, on risquerait d'en tirer gloire, et en tirant gloire, paf, de perdre encore tout ce qu'on a gagné par cette bonne communion, vous voyez. Donc, faites bien attention à cela. Puis maintenant, dernier conseil, alors c'est surtout pour les mères de famille, à l'égard de vos enfants adolescents, Il y a des enfants, c'est vrai, qui ne communient pas, et qui ont des raisons, par contre, des adolescents qui ont des raisons de ne pas communier, spécialement les garçons, parce qu'il y a souvent des problèmes de pureté à l'âge de l'adolescence, plus chez les garçons que chez les filles. Et par conséquent, ils ne communient pas. Et ils ont des raisons de ne pas communier. Et sur nous prêtres, on constate qu'il y a des enfants, malheureusement, qui font des communions sacrilèges en raison de leurs parents qui leur disent « Pourquoi t'as pas communié ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ?» Et alors, donc les enfants, donc malheureusement, font de mauvaises communions. Et il n'y a rien de pire qu'une mauvaise communion. Donc, en raison des parents qui croient bien faire en cherchant à tirer les vers du nez de l'enfant ou en tout cas, ou en essayant de savoir qu'est-ce qui n'a pas été. Donc, soyez très discrets vis-à-vis de vos adolescents. Alors, à vous éventuellement de confier à un prêtre que vous connaissez la difficulté, sans que le prêtre forcément vous dira de quoi il en retourne, puisque le fort interne, on n'en parle pas. Mais ici, justement, parce que je confesse pas vos enfants, je peux en parler librement. Et donc, j'en profite de le dire, quoi. Donc aussi, faites attention à cela parce que, je dis pas que ce soit fréquent, hein, mais en tout cas, ça existe quand même, ça existe assez souvent, malheureusement, des garçons qui font de mauvaises communions parce que leurs parents les pressent de trop de questions sur ce sujet. Voilà, donc nous allons nous rendre à la chapelle pour une petite prière.